Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute des investisseurs pour ce mercredi 8 juillet 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, ça fait deux semaines qu'on a pris off parce qu'il y a deux congés le mercredi. On enregistre toujours le mercredi. Donc, avant de plonger dans notre sujet principal aujourd'hui, Martin, prenons quelques minutes pour faire le point sur les marchés.
Ben, les marchés ont évolué quand même passablement en dents de scie dans les dernières semaines. On a au Canada, ça a quand même très bien été. Là, les titres des banques performent très, très fort. On a des nouveaux sommets historiques sur la BMO, la Royal, la TD, Power Corporation. Même le CN et Savaria font des nouveaux sommets. Donc, il y a plein de titres sur le TSX qui performent bien. Ce qui fait que le marché a terminé juin en hausse de 1,4. On est déjà en hausse de 1,2 en juillet sur le TSX. L'histoire est un petit peu différente du côté américain. Les titres de technologie en arrachent un peu. Il y a eu des hauts et des bas. Les titres de microprocesseurs aussi, comme les Nvidia, Micron de ce monde, tirent de la patte. Pourtant, les résultats financiers des entreprises là, sont incroyables, mais sont quand même inférieurs à des attentes qui sont stratosphériques. Donc, les titres ont corrigé. Ce qui fait que le S&P 500 a terminé le mois de juin en baisse de 1%. On est à 0% pour le mois de juillet. Et le Nasdaq, on a terminé juin en baisse de 2,8 et on est en baisse de 1,5 en juillet. On a quand même des rendements là, pour l'année à jour aux États-Unis, 9,6 sur le S&P, 11% sur le Nasdaq, 11% sur le TSX. Donc, en général, là, l'année va très bien. On sent un certain renversement là. On parlait l'année passée beaucoup des Mag 7, donc les 7 magnifiques là, qui performaient, qui traînaient la bourse à la hausse. Et là, on parle des Lag 7, là, donc les 7 qui au contraire, là, sont un peu le boulet. Collectivement, les 7 magnifiques sont à 0% année à jour, alors que tout le reste, les 493 autres entreprises du S&P 500 sont en hausse d'environ 15%.
C'est quoi les 7 magnifiques? L'information.
C'est de les nommer comme il faut. Là, dans l'ordre ou dans le désordre, ouais. Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Meta et Tesla.
Okay.
Ce sont les 7 magnifiques. À ça, on peut greffer Broadcom comme 8e, là, qui s'est un peu joint au groupe, Micron aussi, mais ce sont donc les 7 initiales. Ça va quand même en dents de scie, l'importance de la diversification. C'est facile de dire, je mets tout dans l'IA, et là, on se rend compte quelques mois plus tard que ouais, la diversification fait son œuvre, puis des fois, il y a des secteurs moins bien aimés pendant quelques temps qui reprennent la pôle, et c'est le cas des entreprises plus traditionnelles, beaucoup qu'on a sur le TSX. On reprise des hostilités un peu au Moyen-Orient, donc le pétrole remonte ce matin, les taux d'intérêt remontent, donc ça, c'est pas très bien. L'or, peut-être mentionner un petit peu là-dessus, alors je vais espérer que ma voix va tenir tout le podcast. Oui. J'ai une voix un peu rauque, effectivement, je me remets d'un petit virus. Donc, l'or était à 5400 à la fin de janvier, on est à 4000 maintenant. Donc, c'est quand même une débarque assez sévère. Pourtant, on aurait pensé qu'avec les craintes d'inflation, avec l'incertitude géopolitique, ça aurait dû être un actif performant. Puis c'est un petit peu, moi, humblement, ce que j'ai trouvé depuis 25 ans, c'est que ça fait jamais ce qu'on veut que ça fasse quand on a besoin que ça le fasse.
C'est ça.
Donc, on n'en a pas vraiment beaucoup en portefeuille. On en a un petit peu à travers les fonds communs de placement puis les FNB, mais pas vraiment de position directe. Puis c'est un petit peu pour ça, là, on se rend compte que c'est très volatile puis c'est pas volatile au bon moment.
Ben, merci beaucoup, Martin, pour la mise à jour. Puis tu peux te reposer un peu, puis je vais te poser les questions après. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet suggéré par un client. Fait qu'il y a quelqu'un qui t'a appelé puis qui t'a dit, ben, ça serait le fun d'avoir ce sujet-là. Et moi, j'adore ça, que les clients fassent ça. Fait qu'hésitez pas, si vous avez des idées de sujets qui vous intéressent pour le balado, faites-nous signe. Donc, c'est un sujet qu'on a déjà couvert par le passé, mais ça fait un bon bout et c'est un sujet fort intéressant. Les obligations. Je dis souvent, comprendre le mécanisme des obligations est plus compliqué que comprendre les actions. Donc, il y a plus d'items qui influencent le prix. Alors, aujourd'hui, on va prendre le temps de les démystifier. Martin, on va commencer par la base. Une obligation, c'est quoi?
En fait, une obligation, c'est un prêt. Donc, quand on achète une action, on devient propriétaire de l'entreprise et on participe donc à la croissance des bénéfices de l'entreprise. Quand j'achète une obligation, en fait, je prête de l'argent à l'entité. L'entité qui peut être un gouvernement, une municipalité, une province ou une entreprise. En échange de ce prêt-là, ben, l'émetteur va nous promettre trois choses, qui va nous verser des intérêts. Puis je dis bien le mot promettre, là. Donc l'intérêt, c'est pas négociable, ça fait partie du contrat, de l'intérêt, de rembourser le capital à l'échéance, puis de respecter le calendrier de paiement déterminé d'avance. Donc une obligation, typiquement, là, presque toujours, ça paye à tous les 6 mois un revenu d'intérêt fixe en dollars.
Parfait. Donc, contrairement à une action, le rendement où le rendement est quand même incertain, l'obligation nous donne généralement une meilleure idée de ce qu'on recevra.
Oui, et évidemment, c'est si on la détient jusqu'à l'échéance. Hein.
Oui.
Donc, on se met dans la tête d'un investisseur, j'achète mon obligation, je mets 10 000 $ dans une obligation municipale 10 ans à 4 %.
Oui.
Donc, je vais recevoir 400 $ par année, donc 200 $ à chaque 6 mois, puis dans 10 ans, ils vont me redonner mon 10 000 $. Donc, je suis sûr de faire ça. Tant qu'on est dans des gouvernements avec, donc il y a la cote de crédit, donc tu sais, on dit la promesse, c'est l'émetteur qui nous promet de nous rembourser. Donc, quand on dit c'est garanti par qui? Par l'émetteur. Qui est l'émetteur? Ben, tu sais, si c'est une petite entreprise plus ou moins solide, la promesse vaut ce qu'elle vaut. Si c'est le gouvernement du Canada ou une province ou une municipalité, là, on peut se fier sur cette garantie-là. Les grandes banques, les grandes compagnies d'assurance, on dort quand même assez bien avec ça. Donc, tu sais, toujours garder ça, en tête. Donc, le revenu de 400 $ ou le 200 $ par 6 mois qu'on reçoit, c'est ça qu'on appelle le coupon. Donc, juste si on se retourne dans le temps, là, ça n'existe plus en format papier, là, mais une obligation, là, moi j'ai connu ça quand j'étais caissier à la Banque Laurentienne à 18 ans, là. Les clients arrivaient avec une grosse feuille de papier, il était écrit 1 000 piastres dessus, puis un peu comme les annonces, là, quand on a perdu notre chat, puis on peut décrocher un numéro de téléphone, là. C'était comme ça une obligation, sauf que chaque petit papier qu'on décrochait, c'était le 200 piastres d'intérêt. Fait que là, les clients, littéralement, ils décrochaient le coupon d'intérêt, ils me le donnaient, puis moi, je leur donnais 200 piastres. Donc, d'où vient le terme coupon d'une obligation? Et ce chiffre-là, donc, il est fixe, hein? C'est 200 piastres par 6 mois pour 10 ans. Peu importe c'est quoi les taux au marché, l'obligation qu'on a achetée, elle nous paye un montant fixe à tous les 6 mois, juste pour toute la durée.
Puis, pas besoin de détacher des coupons maintenant.
Maintenant, c'est tout électronique. Ça n'existe plus sur papier.
Exactement. Donc, pourquoi une entreprise ou un gouvernement déciderait d'émettre une obligation au lieu de se financer simplement par un emprunt bancaire?
Ben, ça permet d'obtenir du financement à grande échelle. Ça permet, des fois, les banques peuvent avoir des conditions de crédit qui ne fait pas l'affaire de l'entreprise. Souvent, on sait que la banque veut toujours avoir mille et une garanties. Puis des fois, mais l'entreprise veut simplement promettre de rembourser le sans nécessairement immobiliser des actifs par une garantie. Donc, les gouvernements vont financer leur infrastructure, les routes, les hôpitaux, les différents programmes sociaux. Les entreprises, souvent, ben, on parle quand ils font, mettons, des acquisitions, bâtissent une usine ou simplement le financer la croissance à plus long terme.
Puis plusieurs des compagnies en technologie, exemple récemment, ont émis des obligations pour pouvoir financer toute l'infrastructure qu'ils sont en train de bâtir.
Exact. Donc, s'ils bâtissent un actif à long terme, ben, c'est normal de financer cet actif-là avec une dette à long terme, d'amortir cette dette-là sur quelques années. C'est un petit peu le concept. Donc, le marché obligataire, là, c'est immensément plus gros que le marché des actions, là. Il y a beaucoup plus d'argent dans le marché des obligations que la bourse au complet, là, dans le monde au complet.
Exactement. Donc, une question que plusieurs investisseurs nous ont posée en 2022, si les obligations sont supposées être sécuritaires, pourquoi on les voit baisser en valeur des fois?
Ben, le principal facteur qui influence les obligations, donc c'est les taux d'intérêt au marché. Donc, quand les taux d'intérêt augmentent, ben, les anciennes obligations deviennent moins attrayantes. Pourquoi? Rappelez-vous de la feuille de papier avec les petits coupons d'intérêt qu'on détachait. Le coupon, il est déjà imprimé, là, c'est 200 piastres par 6 mois, ce qui me donne mon 4 % par année. Ben, si au marché, une obligation similaire s'est rendue à 6 %, personne ne veut me donner le plein prix pour mon obligation qui va payer juste 400. Donc, pour refléter le taux au marché, donc c'est la valeur de l'obligation qui va s'ajuster à la baisse pour que le coupon reflète 6 % de rendement, par exemple.
Et ça, c'est contre-intuitif pour les gens et difficile à comprendre. Et c'est pour ça que je dis souvent que le mécanisme des obligations qui influence la valeur des obligations est plus difficile.
Donc, c'est très bon si je fais un nouveau placement parce que là, mon rendement futur va être plus élevé. Mais donc, la valeur, en réalité, tu sais, j'ai acheté mon obligation à payer du 4. Si je la garde jusqu'à l'échéance, elle va m'avoir donné du 4. Là. Donc, cette baisse-là, elle est temporaire. Pourvu que l'émetteur soit solvable, ce qui est généralement le cas. Là. T'sais, on n'a pas vraiment subi là, de pertes comme ça. Comparons ça un peu à un CPG. T'sais, si vous avez acheté un CPG 5 ans en 2021 à 1%, vous étiez pogné avec là, pendant 5 ans. Alors qu'une obligation, oui, la valeur au marché peut baisser, mais on n'est pas obligé de vendre. On a juste à patienter jusqu'à l'échéance. Inversement, si les taux baissent, la valeur au marché de l'obligation va augmenter parce que là, elle devient plus attrayante. Ma vieille obligation qui paye du 4%, si les taux au marché sont à 2, elle devient très attrayante et le marché va me payer une prime pour l'acheter.
Donc, une obligation n'est pas nécessairement sans volatilité. Si je le vends avant son échéance, le prix peut varier.
Exact. Puis la volatilité, elle va être aussi tributaire de la durée de l'obligation. Mm-hmm. Donc, si j'achète une obligation courte, 1 an, 2 ans, 3 ans, même si les taux bougent, le prix ne va pas nécessairement beaucoup bouger parce qu'elle va venir à échéance bientôt, puis je vais pouvoir la renouveler à un taux proche du marché là, rapidement. Par contre, si j'achète une obligation provinciale de 20-30 ans et qu'effectivement les taux augmentent et restent très élevés, ça se peut que mon obligation soit en bas de mon prix payé pendant très longtemps. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va être en défaut. On a quand même acheté une promesse de paiement. Cette promesse-là va être remplie. Mais donc, la volatilité, là, ça fait partie du monde des obligations.
Parfait. Donc, une autre question qu'on reçoit souvent, puis tu as touché un peu à ça, quelle est la différence entre une obligation et un CPG?
Bon, la principale différence, en fait, c'est la garantie de capital. Un CPG, certificat de placement garanti émis par une caisse ou une banque, là, c'est garanti par l'émetteur et en plus, c'est souvent garanti par soit la société d'assurance dépôt ou l'AMF, là, selon qui est l'émetteur. Par contre, souvent, un CPG, là, on peut pas le vendre avant l'échéance. Donc, si je l'achète, puis j'ai besoin de mon argent, j'ai beau rentrer à la caisse en pleurant, ils vont pas me donner mon argent, c'est non rachetable. Donc, parce que c'est pas rachetable, le prix va pas fluctuer non plus. Donc, tu sais, je mets mon 10 000, il va toujours être écrit 10 000. Même si mon taux d'intérêt que j'ai pris en 2021, il est plus du tout au marché, il est trop bas, il était quand même écrit 10 000. Fait que c'est un certain sentiment de confort, la valeur, elle a pas bougé. En réalité, tu sais, votre argent pourrait travailler bien plus fort que le taux d'intérêt que vous aviez en 2020-2021. Donc, c'est un peu une illusion de sécurité en réalité. Au moins, l'obligation, même si sa valeur diminue temporairement, si j'ai besoin d'argent, au moins, j'ai le choix de dire « Oui, OK, je la vends quand même, j'accepte la perte parce que l'opportunité que j'ai de faire d'autres choses avec mon argent est plus intéressante que de garder jusqu'à l'échéance. »
Puis d'ailleurs, lorsqu'on gère les portefeuilles de nos clients, il arrive souvent qu'on remplace une obligation par une autre obligation ou dépendant du contexte de rendement, on va le remplacer par un CPG.
Exact. Donc, c'est des fois, les obligations payent plus que les CPG. D'autres fois, c'est l'inverse. Donc, lequel des deux titres paye mieux pour une échéance similaire avec un émetteur, par exemple, une obligation municipale 5 ans versus un CPG 5 ans? C'est similaire, là, c'est pas très risqué dans les deux cas. Des fois, la municipale paye plus, d'autres fois, c'est le CPG. Donc, ce qu'on fait souvent quand on achète une obligation, si on pense aux courbes de taux, là, une obligation 1 an, le taux est plus petit. Puis généralement, là, une courbe de taux normale, plus j'allonge mon échéance, plus mon taux est élevé. Donc, juste le passage du temps fait que ça se peut que dans la dernière année, je regarde mon obligation, puis il me reste juste 2,5-3 à aller chercher entre aujourd'hui puis l'échéance. Mais si je renouvelle tout de suite une nouvelle obligation, 10 ans, mettons, j'ai tout de suite 4 % pour les 10 prochaines années. Donc, tu sais, il y a un avantage. Si je suis capable de remplacer une obligation dont le rendement à l'échéance est inférieur à ce que je peux acheter avec une nouvelle obligation, on va créer de la valeur de cette façon-là. Fait que souvent, on les laisse venir à l'échéance. Puis souvent aussi, on va les vendre là, dans la dernière 12-18 mois avant l'échéance parce qu'on est capable de renouveler un meilleur rendement avec un émetteur au moins similaire en termes de risque.
Et certains investisseurs, puis ça, on l'entend souvent, surtout après des marchés super qui ont bien évolué depuis les derniers 3 ans, les investisseurs se disent « mais les obligations, ça a ralenti mon portefeuille. Pourquoi en détenir quand même? »
Ben, les obligations, c'est un rôle important là. Tu sais, en réalité, une obligation, c'est là pour réduire la volatilité du portefeuille, c'est là pour générer un revenu prévisible, c'est là pour protéger le portefeuille d'une période plus difficile en bourse. Puis, moi, je trouve souvent que quand on a le moins envie d'acheter des obligations, c'est là qu'on devrait le plus en acheter. On vient quand même d'avoir des marchés boursiers là, qui ont été très, très généreux au niveau des performances. C'est pas rare de voir des rendements de clients depuis 3 ans, là, de 12, 15 et plus. Puis là, on dit, ah, ben, tu devrais prendre un peu de profit sur tes actions pour mettre ça dans une obligation à 3,5%. Pas très attrayant. Mais la bourse, c'est des cycles. Puis en réalité, ce qui est important, ben, c'est la répartition d'actifs. T'sais. C'est la répartition d'actifs qui va générer la grande partie du rendement qu'on cherche dans un portefeuille. Donc, si on a un profil équilibré, on était 40% en obligations, 60% en actions, puis j'ai rien touché depuis 3 ans, bien là, vous n'êtes plus 40-60, vous êtes peut-être 30-70. T'sais. Votre portion en actions, elle a surperformé, elle est maintenant plus grosse que la cible. On devrait se forcer à vendre un petit peu d'actions et retourner à la cible. Donc, ça nous évite de faire de l'anticipation de marché. On est juste en train d'appliquer le profil d'investisseur. Moi, j'aime ça des comparaisons, si on veut. Tu sais, quand je bâtis un portefeuille, je dis souvent, ben, tu sais, c'est un peu comme une équipe de hockey. Là, ça prend des joueurs à chaque position. Ben, les actions, là, c'est Nick Suzuki puis Cole Caulfield. Là, c'est les marqueurs. Okay. C'est les joueurs offensifs. Par contre, ça prend aussi des défenseurs défensifs puis des gardiens de but. Donc, ça, c'est les obligations dans le portefeuille. Puis, si on met toujours 5 attaquants offensifs sur la patinoire, on ne va pas gagner de championnat avec ça. Ça prend une équipe complète, incluant des obligations. Et même un investisseur de croissance, après des marchés comme ça qui ont très, très bien performé, il ne faut pas juste voir le rendement de l'obligation comme son rendement à l'échéance. Je place à 3,5% pour 3-4 ans. Si cette obligation-là vous permet, dans un an ou deux, de profiter d'une correction de marché plus sévère, le marché baisse de 20-30%, ce qu'on ne peut pas anticiper, on ne sait pas si ça va arriver, mais ça va arriver, là. C'est presque inévitable. Mais si votre obligation, ça vous permet de la revendre puis d'acheter à rabais de 25-30% le marché des actions, en réalité, votre obligation vous aura rapporté bien plus que le 3,5. Elle vous aura permis de profiter d'un rabais, d'une opportunité d'acheter des actions à rabais.
Exactement. Et aussi, les obligations et les CPG, d'ailleurs, peuvent être utiles quand on est en période de décaissement. Hein. Là, on peut prévoir puis se garantir des revenus quand on commence à sortir l'argent, exemple, de notre FER. Mais on peut se prévoir des revenus pour les prochaines années, isoler cet argent-là et laisser le reste fructifier dans le marché des actions.
Bâtir une petite échelle d'échéance, par exemple. Ouais. Dire, bon, mais j'ai besoin de retirer 20 000 par année. Ben, je vais placer 5 obligations de 20 000 chacune, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, à chaque année, je n'ai pas à dire qu'est-ce que je vais vendre cette année pour mon retrait. J'ai 20 000 qui vient échéance, c'est ça que je vais vendre.
Exactement. Et est-ce que, question piège pour toi, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour acheter des obligations?
Oui, j'ai un peu touché. C'est un peu quand on a le moins envie d'en acheter. donc, il n'y a pas tant de meilleur moment ou de pire moment. Là, on revient à votre répartition d'actifs. C'est important de demeurer sur la cible. La perception du risque, elle est inverse au risque réel.
Oui.
Donc, pensez 2 secondes pour y réfléchir à ce que je viens de dire. Là. Le monde pensait que c'était très risqué d'investir en 2022 quand le marché venait de baisser de 20-30%. En réalité, on a 20-30% moins de risque. On a déjà subi la baisse. Là, actuellement, on a un marché à des sommets historiques ou presque. On a des bourses qui ont très, très bien fait depuis quelques années. On a l'impression d'avoir les deux pieds sur le pouf. Tout est parfait, ça va bien. c'est l'inverse. Le risque est probablement plus élevé maintenant pour les 2-3 prochaines années qu'il l'était alors qu'on venait de subir une baisse importante.
Puis nous, on est là pour surveiller ça aussi, surveiller votre répartition d'actifs, être sûr que vous demeurez sur votre cible et sur vos objectifs. Donc aujourd'hui, Martin, nous avons appris qu'une obligation est essentiellement un prêt. Elle procure généralement un revenu plus prévisible que les actions. Sa valeur fluctue selon les taux d'intérêt. Et son rôle principal est de stabiliser un portefeuille et de réduire la volatilité. Donc, c'est un sujet qui est hyper excitant, intéressant, selon toi et moi, mais ça demeure extrêmement important, de, comme on l'a dit à plusieurs fois, de regarder vos objectifs de placement et d'assurer que vous êtes vraiment sur vos objectifs de placement. Merci beaucoup, Martin, pour cette discussion et merci à vous tous de nous avoir écoutés cette semaine. Si vous avez des questions concernant les obligations, concernant votre portefeuille, n'hésitez pas, Martin, moi, Laurie, Michel et Mathieu sommes là pour vous accompagner. À bientôt pour un prochain épisode de À l'écoute des investisseurs.